Chapitre 6, les alternatives.
Prenez le pouvoir, pas les médicaments.
Très bon, très bon. Effectivement, il y a des soins qui sont remboursés par la sécu et d'autres pas. C'est comme le Canada Dry que tu m'as servi, tu vois. C'est doré comme de l'alcool, son nom sonne comme un nom d'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Une bière alternative, si tu veux. Le tableau qui te donne le calcul du montant des remboursements s'appelait tarif de convention ou tarif d'autorité jusqu'en 2006. Il était renommé ensuite base de remboursement.
Et qui fixe cette base ?
Elle est fixée par convention entre les professionnels de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et c'est pour ça que certains utilisent le mot conventionnel pour qualifier des soins reconnus et remboursés et non conventionnel pour les autres. Ça veut dire qu'ils ont fait l'objet d'une convention. Si tu veux. À la base de remboursement, si tu te rappelles bien, est composée de trois morceaux. La part remboursée par la Sécu, la participation forfaitaire et le ticket modérateur à la charge de l'assuré.
Mais ça, je sais. La pizza, tout ça, tu radotes.
Par chapitre
4. Donc, on a conventionnel et non conventionnel. Mmh. Et c'est lié. Conventionnement avec la Sécu. Mmh. Mais alternatif, ça veut dire quoi ? Alternatif à quoi ?
Ah, bon, bah, je vais faire comme les griots du Sahel. Un petit détour avant d'arriver au nœud du problème. Hein. La médecine, il faut le rappeler, c'est un ensemble de techniques utilisées pour guérir un mal-être ou une pathologie particulière ou pour prévenir son apparition. L'objectif premier du médecin est de mettre au point des méthodes efficaces, c'est-à-dire des techniques qui, appliquées, permettent d'obtenir plus de guérison qu'on en obtiendrait en regardant passer les trains. Pour cela, il est nécessaire d'étudier longuement la physiologie et la psychologie de l'humain. Et ça ne va pas sans soulever quelques problèmes et faire naître une contestation qui fera le lit des alternatives.
Soulever des problèmes alors que c'est censé les résoudre.
Tout est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Le premier problème vient directement de ces longues études. Ayant suivi un long cursus, le toubib jouit d'un statut d'élite supérieur aux pharmaciens, pharmaciennes, maïeuticiens, les sages-femmes, infirmiers, infirmières, aides-soignants, et tout ça, et s'en sert souvent. Les médecins ont souvent cette morgue agaçante de ceux qui, comme les avocats ou les garagistes, nous placent dans une situation de dépendance technique. Bah, la différence, qu'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'exercice illégal de la mécanique. Alors, il y a en revanche un exercice illégal de la médecine, et de la profession d'avocat d'ailleurs, et c'est la loi qui tranche entre ce qui est de la bonne médecine et de la mauvaise médecine. De fait, il n'y a pas de processus démocratique consultatif sur les lois qui fixent le curseur. Ça donne l'impression désagréable d'un corps officiel s'étant octroyé une hégémonie sur la santé, sur notre santé. Il n'est donc pas étonnant que des militants politiques méfiants envers des experts désignés par l'État et semblant s'approprier une question qui nous appartient, le rapport à notre corps, tu vois, dénoncent le statut mandarinal du médecin et contestent son autorité qui va parfois jusqu'à prendre des décisions à l'insu du patient ou à l'incorporer dans une étude sans le lui dire. Partant du principe que chacun est libre de disposer de sa santé, il n'est pas illogique de contester les médecins lorsqu'ils mettent en doute la capacité de choisir des personnes en transidentité, des femmes souhaitant avorter, des toxicomanes, des personnes en souffrance qui veulent mourir. Mais bon, promis, on y reviendra.
Et pourtant, il faut bien admettre que les médecins sont plus pointus que toi et moi sur notre propre santé.
Ah, ils sont plus savants, mais ils ne ressentent pas ce que tu ressens, ils n'ont pas le vécu de chaque patient. Aussi, devrait-on dire que c'est le binôme thérapeute-patient qui est pointu, pas le thérapeute tout seul.
Admettons. Mais ils sont quand même experts sur les moyens efficaces de la maintenir, cette santé.
Alors, le deuxième problème est justement la question de l'efficacité. Devant un tel statut d'autorité, le patient a une attente de toute puissance et s'attend à 100% de guérison. Or, il n'existe pas de méthode efficace à 100%. Tout au plus, peut-on dire que dans l'état actuel de la médecine, la probabilité que telle intervention nous sorte de la maladie est de tant de pourcents sur la base de toute la littérature scientifique sur le sujet. Contester le médecin parce qu'il est autoritaire ou toujours en retard est pertinent. Le contester parce que 100% de ses patients ne guérissent pas, ça c'est une méprise par exemple.
Ah, ça me rappelle les histoires de médecins nouvellement arrivés dans des bleds dont la réputation a été ruinée d'emblée du fait qu'ils ont eu pour premier patient des moribonds et ont eu la malheureuse idée de mourir tout de suite après.
C'est ça, et la population conclut que ces médecins sont mauvais. Pourtant, considérer que toute la médecine scientifique est caduque parce qu'un médecin est parfois confronté à l'échec, c'est carrément s'enfoncer un pieu dans la rotule.
J'ai peut-être déjà entendu ce genre d'argument.
Oui, c'est un tantinet agaçant. De fait, beaucoup de gens réclament une médecine individualisée.
Mais ce n'est pas idiot. On part du principe que chaque cas est différent.
Bah, admettons, même si la régularité du corps humain laisse quand même penser qu'on se dit ça pour se sentir unique au milieu de 7 milliards de congénères plus ou moins hostiles. Alors, bon, tiens bien ton verre. Si tout le monde est unique, différent, pourquoi même chercher un soin qui guérisse tout le monde ?
Ok, ma foi, c'est juste. C'est pas cohérent.
Le troisième problème, il est plus subtil, car il entraîne sur des chemins métaphysiques. Généralement, le patient souffrant cherche plus qu'une cause physique à sa maladie, il cherche une raison. Un pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Comme si le bon Dieu n'avait que ça à faire de se pencher sur nos petits tracas. Alors, aussi compréhensible soit-elle, cette question est du même genre que celle sur le sens de la vie, ou équivalente à « Pourquoi moi ? Suis-je dans ce corps-là, maintenant ? Et où je vais aller après ma mort ?» etc. Demandez ça à son médecin, ou à son employeur, ou au chauffeur de bus, c'est à peu près la même chose. Tu veux. Là où le malade est en recherche de sens, le médecin ne peut que donner de froides explications biologiques ou statistiques, et c'est assez insatisfaisant, bien sûr, je comprends bien. Dire à quelqu'un ayant développé une maladie que bah, c'est normal, tu vois, qu'il est la personne sur 100 prévue par la théorie, C'est comme expliquer à un autre qui a gagné au loto que ça n'a rien à voir avec la chance, il était prévisible, de toute façon, que le gros lot ou le cancer tombe sur quelqu'un. Maintenant que ce soit vous, moi, un autre, ben, c'est un hasard de tirage au sort parmi des populations cibles. Celles qui jouent pour le loto, celles qui cumulent susceptibilité génétique et comportement ou contexte à risque pour les cancers.
Et pourquoi alors certains cherchent-ils du sens ?
Ah, pour moi, c'est sans doute l'effet conjoint d'une morale religieuse, martelant que tous les épisodes qui nous arrivent sont le fait de la volonté d'un dieu. Et puis, et d'une occultation permanente de la mort en France, si on accepte l'achat de chrysanthèmes à la Toussaint. On fait un peu comme si on mourait jamais, on nous épargne la vue de nos proches défunts pendant toute notre jeunesse, et on aborde rarement sans prendre un ton solennel la manière dont on aimerait mourir. Même aujourd'hui, parler de ses propres obsèques, c'est un tabou fort. Hein.
Pas de tabou entre nous, vas-y.
Bah, je te reparle spécifiquement. De toute façon, parler de la mort dans une discussion sur la santé, c'est essentiel, et c'est de toute façon logique, car tous les patients qu'on prévient, toute l'assistance qu'on met en place, tout se résume à tenter de retarder le stade ultime, raide comme la justice entre quatre planches. Alors quand le médecin annonce une mort possible ou probable, le cerveau ne peut absorber la nouvelle comme ça. Et d'abord, il rechigne, et puis il tente de s'accrocher à des questions supérieures, des questions métaphysiques auxquelles professionnels de santé ou scientifiques ne peuvent, hélas, rien répondre de pertinent. Autant d'interrogations qui font en revanche la fortune des prêtres au chevet des moribonds terrorisés et de Mère Teresa qui baptisait des agonisants contre leur gré. Elles nourrissent aussi les tenants des techniques alternatives type biologie totale, médecine nouvelle du docteur Hammer, dianétique ou psychogénéalogie qui vont fournir un choix de raison séduisante à la maladie, selon nos goûts, un conflit interne, un Dirk Hammer syndrome par filiation, un engramme mal réglé ou un fantôme hérité d'autres générations et transmis à notre insu.
Attends, tu es en train de me dire que toi, tu n'as pas trouvé de sens à ta vie ?
Je crains qu'il n'y ait finalement que deux possibilités pour trouver le sens de sa vie, et celui de sa mort à plus forte raison. Soit au rayon prêt-à-porter des prêtres, des imams et des rabbins à la mode qui construisent des réponses toutes faites et qui laissent peu d'autonomie, soit dans nos choix personnels pour donner un sens à notre vie ici-bas, avec et pour les autres, sans attendre un quelconque au-delà, choix chatoyant.
Ouais, la seconde option donne à la fois une grande liberté, mais aussi une grande responsabilité.
En effet. Spider-Man, oui, grand philosophe, Spider-Man, Peter Parker.
Son oncle Ben.
Mais j'en termine avec le quatrième problème, source de contestation. La manne financière que représente le médecin. Prescripteur, il fait, qu'il le veuille ou non, les beaux et les mauvais jours des médicaments et des équipements coûteux. Pas étonnant donc que les industriels se développent des politiques marketing très agressives auxquelles il est difficile de résister, allant de cadeaux somptueux à des financements de colloques scientifiques de grand intérêt. Colloques qui n'auraient d'ailleurs généralement pas été financés autrement. Les militants politiques y voient à raison un avatar du capitalisme industriel et se demandent dans quelle mesure le médecin n'est pas pris dans un conflit d'intérêts avec une industrie lorsqu'il prescrit, lorsqu'il cherche, lorsqu'il se fait envahir par des visiteurs médicaux, qu'il siège dans des commissions d'autorisation de mise sur le marché alors qu'il est financé par des laboratoires privés.
Il faudrait que les toubibs donnent tous leur lien d'intérêt.
Ouais, t'as raison, ce serait un bon début. Il faut saluer d'ailleurs le travail d'associations comme le Formindep, qui... formation indépendante des professionnels de santé vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et du matériel médical, qui œuvre depuis longtemps pour dénoncer les liens d'intérêt en médecine et faire évoluer la réglementation. Alors, une loi datant du 29 décembre 2011 est censée garantir l'indépendance et l'impartialité des décisions prises en matière de santé. Elle a donné lieu à la mise en place d'une base de données publique nommée Transparence Santé, je t'en ai causé tout à l'heure, qui rend accessible l'ensemble des informations déclarées par les entreprises sur les liens d'intérêt qu'elles entretiennent avec des acteurs du service de la santé professionnelle, étudiants, sociétés savantes, associations, médecins. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça, tu peux consulter. Hein. Et surtout quand on sait que les pratiques médicales respectant les données scientifiques et indépendantes des influences marketing permettent à la fois de mieux soigner et de faire des économies.
Et mieux soigner, c'est quand même ce qu'on leur demande.
Ah oui, et ce qui nous amène au cinquième problème, celui du soin. La santé est l'objet d'un service public qui est démantelé lentement, en mille morceaux, pour diverses raisons, prenant toutes leurs sources dans l'ultralibéralisme économique. C'est principalement l'accord général sur le commerce des services, la GCS, annexe des accords constitutifs de l'Organisation mondiale du commerce, que tu connais, l'OMC, qui a servi de burin.
C'est la même tambouille que le TAFTA et l'ALENA, dont tu m'as parlé plus tôt.
Mais oui, on retrouve là un conflit classique dans les discussions anti-domination. Utiliser un service public de santé géré par l'État est une forme de soumission, certes, mais finalement bien moindre que de laisser faire la libre concurrence et d'utiliser les cliniques privées, par exemple, qui réservent les meilleurs soins aux plus fortunés. Et que les autres fassent la queue. Quant à ceux qui sont gravement malades, non solvables ou dont les soins ne rapportent rien, ben, qu'ils aillent se faire voir chez les Grecs, qui nous ont pourtant rien fait. Repense au slogan chomsco-brésilien, étendre la surface de la cage avant de la casser. L'État est une cage, certes, mais en dehors de la cage, il y a des fauves, chapitre 1, je crois qu'on en a parlé. C'est ainsi que de fil à recoudre en aiguille de seringue, les hôpitaux publics accueillent une majorité de gens, la moins fortunée, avec des moyens et du personnel se réduisant jour après jour, et qui dit moins de moyens et d'accueil dit dépersonnalisation du soin, stress, conditions de travail pénibles, rythmes infernaux, et donc prise en charge médiocre, sinon indécente, comme dans certains services d'urgence.
Alors, si j'ai bien compris, certaines personnes considèrent donc que la médecine officielle cumule autoritarisme, non-réponse aux questions métaphysiques, collusion avec les industriels, prise en charge froide, pressée et défaillante, tout ceci pour des résultats qui ne sont même pas de 100%.
Et par des médecins toujours absents, soit barbotant dans leur piscine à Bloody Mary à la main, soit en colloque à papette. Certes, comme dit un proverbe, qui veut noyer Pasteur l'accuse de la rage. N'empêche, impossible de cacher les problèmes sous le tapis, surtout quand explosent des risques sanitaires cachés ou qu'on tente de nier, comme dans les récentes affaires Mediator, Vioxx, Depakine ou Covid depuis ces dernières années. Hydrochloroquine, voilà. Ajoute un fonctionnement hospitalier très hiérarchisé, souviens-toi de Reda Kateb dans le film Hippocrate. Et quand je t'aurais parlé des modalités de financement des établissements de santé qui conduisent à rechigner sur les actes les moins rentables, la coupe d'Igy sera pleine.
La coupe d'Igy ?
Ouais, tu sais, c'est cette coupe entourée d'un serpent, là. Attribut d'Igy, la déesse grecque à qui on doit soi-disant l'hygiène et qui remplace les croix vertes sur la devanture des pharmacies. C'est devenu dans sa version dessinée par la maison Dreyer, le symbole des pharmacies en France depuis 1942. Le conseil de l'ordre des pharmaciens l'a même déposé comme marque collective. On le nomme parfois abusivement caducé d'Igy, ce qui est idiot puisqu'un caducé, c'est une baguette de laurier entourée, non de un, mais de deux serpents. Bon, tu t'en fous, toi. Mais le terme caducé s'emploie maintenant pour désigner tout un tas d'emblèmes. Il y en a même pour la médecine alternative avec des plantes grimpantes qui remplacent les serpents. Ça doit faire plus naturel.
Et pourquoi il y a un serpent sur la coupe ?
Ah, c'est le serpent d'Épidore, dans le Péloponnèse en grec, en Grèce. C'est une vieille pub, ça. Il aurait eu pour habitude d'être toujours enroulé autour du bâton du dieu Asclépios, Esculape en latin. Et comme à Épidore, il y avait un temple spécial où Asclépios prétendait guérir les gens dormant sur place au moyen des songes, le serpent est resté celui d'Épidore.
Ok. Ça va mieux. Tu en étais à la coupe qui était pleine.
Bah oui, c'est ça. Il est temps de créer des alternatives, c'est évident. Les mots d'ordre intuitifs sont donc réapproprions-nous notre corps, soyons-nous nous-mêmes, exproprions le corps médical de ses privilèges comme on exproprie les riches propriétaires de leur maison coloniale et ne dépendons plus de la médecine qui, comme le chantait Renaud, est une putain, son macro, c'est le pharmacien. Un tel programme, ça fait envie, même les manchots signeraient. Et pourtant, si se réapproprier notre corps signifie l'écouter plus et sentir les débuts de lombalgie, prévenir les contextes allergiques ou veiller à son sommeil, bon, pas de problème. Ça signifie prétendre tout sentir et tout savoir sur notre corps par simple écoute de soi, c'est un leurre. Il est difficile de sentir une appendicite sécréter son pus à l'avance. Il est malaisé de distinguer une migraine d'une tumeur au cerveau. L'apparition d'un diabète ne se détecte pas par introspection personnelle et on ne connaît pas l'intuition mystique qui permette de sentir si une tache ou un kyste sont bénins ou malins.
Donc, est-ce que tu veux dire qu'il faut qu'on oublie le, entre guillemets, soignons-nous nous-mêmes ?
Non, ça marche presque à tous les coups pour la pathologie bénigne, qu'on appelle spontanément résolutive, pour les petits maux de la vie, tous les jours, tu vois, les douleurs à la con, les trucs comme ça. Quand je dis marche, pour une thérapie, c'est qu'en tout état de cause, ça aide à attendre que ça passe, comme avec le rhume, ou quoi qu'il arrive, ça passe en une semaine. Bien sûr, l'automédicamentation peut conduire à prendre des risques inconsidérés, comme soigner son cancer par téléphone, ou se tromper de plante, comme le héros du film Into the Wild, qui a existé d'ailleurs. Même il me semble que le film de Sean Penn soit un peu arrangé avec la réalité, mais bon, ouais, peu importe.
La balance bénéfice-risque ne pèche donc pas vraiment en faveur de l'autotraitement.
En dehors des pathologies sans gravité qui passent toutes seules, il faudrait recommencer 2000 ans de botanique balbutiante, de pharmacologie et de galénique. Le galénique, c'est le conditionnement des médicaments, ça vient du mot de Galien, le médecin latin, pour obtenir un remède efficace. Qui est prêt à faire ça ? Ne dépendons plus des médecins, d'accord, mais entre nous, es-tu prêt à confier ton opération de l'appendicite ou des dents de sagesse à n'importe quel clampin venu ?
Plutôt mourir, oui.
Plutôt mourir, quel bout en train. En passage, tu remarques comme la santé et la médecine ont un statut particulier pour chacun d'entre nous. Personne ne se verrait prendre un avion piloté par un pilote alternatif, tu vois, qui a reçu par une intervention divine sans savoir, je suis pilote alternatif, ou habiter un gratte-ciel en paille, construit par un architecte alternatif. Tu vois. Mais peu de gens rechignent à consulter un thérapeute alternatif. Et se passer des médecines est impossible. On repère ce qui relève de la guérison spontanée et de la pathologie bénigne, et on court chez le toubib pour les autres cas. Sinon, il faut étudier la médecine. C'est possible, il faut entre 7 et 10 ans, passer le concours d'entrée, lire l'anglais. Je connais des militants qui ont décidé de se former solidement en économie pour contrer le dogme dominant, dont d'autres qui ont décidé de se former pour cultiver la terre afin de ne plus dépendre des grands céréaliers et des serres maraîchères esclavagistes du sud de l'Espagne, à Murcia, tous ces endroits-là. Je connais des militants de l'action directe, qui sont devenus avocats pour leur cause. En médecine, je ne connais pas des masses de gens qui ont fait le choix de se coltiner le cursus pour spécifiquement se réapproprier leur santé. Alors je fais une hypothèse. Il y a une telle multiplicité de thérapies, médecines alternatives ou douces, qui propose de presque tout guérir en 3 mois de stage et un livre du fondateur que personne n'a envie de consacrer au moins un dixième de sa vie entouré de carabins braillards. Au fait, tu portes un caleçon, toi ?
Eh ben, Ouais.
Bah, imaginons que je veuille acheter un caleçon qui ne soit pas fabriqué par un prisonnier bangladais, tu vois. Je vais fouiller, refouiller, jusqu'à ce que je trouve un caleçon fabriqué dans des conditions décentes par un travailleur avec des droits. Mais à la fin, je veux quand même un caleçon, tu vois. C'est un truc qui me tient au cul tout seul, qui laisse passer les deux jambes, que je peux enlever facilement et qui gratte pas trop. Si le seul caleçon non fait par un des tubes bangladais est une vague boule de tissu écru sans élastique, j'ai plus que trois solutions. La première, c'est retourner vers un caleçon fait par un des tubes bangladais, de dépit, tu vois. La deuxième, c'est tisser moi-même mon caleçon en mode Gandhi, tu vois. Autonomie accrue, certes, mais faut que j'apprenne. Et la troisième, c'est renoncer purement et simplement au caleçon.
Ah mais je vois pas bien le rapport là.
Tu vas voir, si je veux un soin débarrassé du professionnel autoritaire sous influence de l'industrie pharmaceutique, je vais fouiller, refouiller, jusqu'à ce que je trouve un soignant non autoritaire qui me garantit son indépendance vis-à-vis des industries pharmaceutiques. À la fin, je veux quand même un soin efficace, c'est-à-dire le soin qui me garantit le maximum de chances de guérir, et s'il en est deux qui proposent la même garantie, je choisirai celui qui me convient le mieux. Mais si le seul soin sans professionnel autoritaire et sans influence industrielle pharmaceutique, c'est une obscure technique de prière indonésienne faisant appel au dieu chacal par ingestion d'ayahuasca, un hallucinogène célèbre, dans une yourte de sudation et sans effet thérapeutique, bah, j'ai plus que trois solutions. La première, c'est retourner vers le soin avec médecin autoritaire sous influence de dépit. Le deuxième, c'est apprendre moi-même à faire un soin à efficacité maximum, autonomie accrue, mais pour le cas sur 10 non bénin, il faut que je me fasse des 10 années de cursus médical. La troisième, c'est renoncer purement et simplement aux soins avec les risques que ça comporte.
Ouais, mais qu'entend-on alors par alternative?
Ben, les mots sont importants, surtout s'ils servent de catégorie. Si les mots comme alternatifs sont flous, les catégories qui en découlent sont comme les gorilles dans la brume. Vrai problème, faux problème.
Et ça crée des fossés.
Et ça crée des ânes faussés. Très bon, très bon. Vrai problème, faux problème, question métaphysique insoluble, enjeu politique, industriel. La plupart du temps, lorsqu'on invoque la médecine alternative, c'est pour essayer de s'extraire de ce maelstrom dans lequel on se noie. Et c'est plus facile d'attaquer la partie la plus visible, la médecine dite scientifique ou fondée sur l'épreuve. On appelle ça la médecine EBP, Evidence-Based Practice, fondée sur l'épreuve. De fait, on jette le bébé avec l'eau du bain, puisqu'au nom de tout le reste, on rejette la discipline qui prend des décisions thérapeutiques en tenant compte des preuves obtenues selon une méthode rigoureuse. Quand on dit alternatif, on veut remplacer la médecine scientifique au risque de perdre ce qui fonctionne.
Alors, attends. Donc, les médecines alternatives n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Pourtant, la plupart des gens qui consomment des soins alternatifs disent que ça marche.
L'ambiguïté provient de ce qu'on entend lorsqu'on dit qu'un traitement marche. De manière assez logique, si nous souffrons d'un symptôme et qu'après avoir pris un traitement, nous n'en souffrons plus, nous aurons tendance à considérer que le traitement pris est efficace. C'est sans compter sur plusieurs paramètres qui peuvent expliquer l'amélioration de symptômes indépendamment du traitement reçu. Premièrement, nous ne savons pas ce qui serait advenu si on ne l'avait pas pris. Or, une bonne partie des maux dont nous souffrons sont dits d'évolution spontanément résolutive. Mon pote kiné Albin Guillou a une expression pour certains d'entre les DAC, les douleurs à la con, là, qui passent toutes seules.
Ok, mais deuxièmement.
Lorsqu'on reçoit un traitement, notre cerveau produit des substances chimiques modifiant le fonctionnement de notre corps, et ce, quel que soit le traitement en question. Ce phénomène est généralement connu sous le nom d'effet placebo.
C'est un effet psychologique qui guérit?
Mais pas vraiment. En fait, le mot placebo, ça veut dire je plairai en latin. À qui, sous-entendu, au Seigneur. En fait, c'est le premier verset de la Vulgate, la Bible version latine, qui était utilisée au 5e siècle dans la liturgie pendant l'office des morts. La référence religieuse a disparu, mais le mot est toujours associé à la notion de plaire, de plaire, quoi, de complaire, tu vois, depuis au moins William Cullen, un médecin britannique, en 1772. Je précise ceci, que la première personne à avoir compris à peu près comment fonctionne l'effet placebo, ce n'est pas des Anglais du XVIIIe siècle, mais c'est des Arabes du Xe et XIe siècle, dont un qui s'appelait Kusta Ibn Luka, je tiens à le dire, voilà, c'est dit. On qualifie un acte de placebo lorsqu'il a plus pour objectif de plaire au patient que de lui être bénéfique. On met cet effet à tort au singulier. Il dépend en fait d'une myriade de paramètres, tels que la manière dont on te délivre le traitement, qui te le donne, les effets auxquels tu t'attends après la prise, etc. De fait, les scientifiques parlent désormais plus volontiers d'effets contextuels au pluriel, qui se produisent indépendamment du fait que la substance donnée ou le geste réalisé est une action en soi sur notre organisme. Autrement dit, prendre un traitement est efficace même si le traitement, lui, ne l'est pas. Et c'est pour cela qu'on distingue l'efficacité globale d'un soin de l'efficacité propre du traitement pris. Et les choses se compliquent encore un peu si on regarde dans le détail les mécanismes par lesquels le placebo, l'effet placebo ou le traitement lui-même agissent, car ce sont souvent les mêmes. En gros, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le placebo ne guérit rien, mais permet de mieux supporter les symptômes, ce qui est déjà pas mal.
Attends une minute. S'il n'y a pas d'efficacité propre aux médecines alternatives, en quoi sont-ce des alternatives?
Eh bien, mettons que l'on fuit le système de santé conventionnel en contestation des industries pharmaceutiques capitalistes, que l'on cherche en quelque sorte une alternative au modèle économique. à exception en fait de quelques recettes de bonnes femmes.
De bonnes femmes, tu veux dire de bonnes fame, non ?
Bon, en fait, on nous dit souvent que remettre de bonnes femmes vient de femme. La femme, la, c'est la réputation, la renommée. Ça a donné fameux, malfameux, fameux en anglais d'ailleurs. Mais non, non, selon nos recherches, c'est faux. Les vieux textes indiquent immanquablement bonne femme au sens de femme et d'expérimenter. Okay. Il est fréquent dans les campagnes que la bonne femme désigne celle qui connaissait les plantes médicinales et faisait office de sage-femme. Bon, bah, laisse-moi finir ce que je disais. Exception faite de quelques recettes diffusées largement et gratuitement, le marché des médecines alternatives est exemplaire de capitalisme. Depuis la suprématie monopolistique de l'entreprise Boiron, qui a tout racheté en homéopathie, quasiment tout, aux entreprises florissantes de soins détox et décoctions druidiques en tout genre, en passant par les instituts privés de formation à ces thérapies.
Pour le modèle économique, d'accord. Mais au moins, ça ne coûte rien à la sécu.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas dire que je pinaille, mais je trouve au contraire qu'il y a un coût symbolique extrêmement élevé pour notre système de santé, ainsi qu'un coût financier indirect.
Bah, je suis curieux d'entendre ça.
Bah, depuis qu'on discute, tu as bien saisi que ce qui est beau dans notre système, c'est l'aspect collectif. Et ce qui est émouvant, c'est sa lente construction par des luttes de pauvres bougres qui, en se regroupant, se sentent moins vulnérables. Or, l'essentiel des thérapies alternatives impute les souffrances, sinon à l'individu lui-même, du moins à l'environnement qu'il subit et sur lequel il n'aurait pas prise. Les ondes, la pollution, la nourriture. Chacun devient, sinon la source de ses malheurs, au moins le porteur de la solution pour les évincer. En mangeant biodynamique, en harmonisant ses énergies, en élevant les vibrations de notre chemin de vie ou en ouvrant grand notre chakra, exit l'analyse socio-économique de notre mal-être. Circuler, il n'y a rien à voir. Ta déprime peut être due à un petit chef autoritaire, ton mal de dos, à des conditions de travail détestables ou à la cadence des machines. Qu'importe, l'injonction est faite de chercher en nous la cause de nos maux et si possible leur remède. Je t'accorde le fait que cette individualisation des solutions aux problèmes de santé n'est pas spécifique aux alternatives, elle se retrouve aussi dans la médecine conventionnelle. Toutefois, dans les deux cas, cette individualisation des problèmes pulvérise toute contestation sociale et anéantit les solutions collectives et potentiellement pérennes.
Ça, c'est le coup symbolique.
Oui, à une individualisation bien libérale, une prise en charge de soi, juste de soi, bien égoïste, confite dans le sucre des spiritualités self-service. Le reste, bon, bah, je suis un colibri, si tu veux, je fais ma part. Prendre une métaphore, quoi. Mais juste ma part, c'est celle de mon voisin, c'est plus vraiment mon affaire. Et puis surtout, pas touche au puissant. Un peu comme l'écologisme de salon, où tu vois des millionnaires dans des films t'encourager, toi, misérable vermisseau que tu es, à fermer ton robinet quand tu te laves les dents, mais ne jamais toucher aux grandes entreprises et aux gros consortiums, qui d'ailleurs ont bien pigé le truc et financent les films.
Tu penses que je m'intéresse pas à la politique parce que j'ai vu Home de Yann Arthus Bertrand ?
Bah, c'est le risque. J'ai l'impression, par exemple, que les plus alternatifs, les plus mystiques des jeunes qui se lancent dans l'agriculture, par exemple, se retrouvent rarement plus tard dans les luttes sociales ou syndicales. Je ne serais pas étonné que ce soit pareil chez un bon nombre de thérapeutes alternatifs. Prions collectivement dans un cabinet feng shui et devant une lampe à sel. Cherchons dans notre vie intra-utérine la raison de notre mal-être et oublions toute analyse sociopolitique. Sur ce plan économique, c'est plus subtil, mais tu peux constater qu'un des arguments commerciaux des complémentaires santé pour te faire prendre la formule la plus chère est qu'avec cette dernière, les thérapies alternatives sont en partie remboursées. Si tu veux mon avis, ça participe au démantèlement progressif de notre belle sécu et ça fait au passage peser les soins sur le client, puisque je te rappelle que le montant de ta cotisation tient compte de cette offre.
Attends, explique-toi, je ne vois pas bien le rapport.
Je te prends un exemple que je connais bien, la kinésithérapie et l'ostéopathie. D'un point de vue pratique, si tu retires ce qui est ésotérique et non démontré de l'ostéopathie, tu obtiens bon an, mal an des éléments qui viennent de la kinésithérapie. Sauf que la kiné, qui n'est même pas une théorie, mais juste un agglomérat de techniques, est profondément ancrée dans le modèle de la sécu, de la sécurité sociale, héritée du CNR, alors que l'ostéopathie repose sur un modèle collant à la doctrine libérale et un système de soins rendu de plus en plus concurrentiel par la lente déréglementation des professions de santé. On fait proliférer une offre de soins, l'ostéopathie, en dehors du système de la sécu, on en fait la promotion à grand renfort de pub, autorisée pour les ostéos, qui ne sont pas officiellement professionnels de santé, contrairement aux kinés, et on organise une pénurie de la même offre existant dans le système de sécu, la kinésithérapie, en maintenant des numerus clausus hyper bas. À terme, il y a fort à parier que dans un contexte où il faut faire des économies, le fait que d'autres professionnels fassent ça très bien en dehors du système et que les complémentaires, en plus, les prennent en charge, induit des réformes dans lesquelles on ne retrouve plus de justification à maintenir une pratique dans le cadre conventionnel du remboursement de la sécu. Et on finirait par oublier qu'un jour, la kiné était prise en charge pour tous.
Mais alors, comment on s'en sort ?
Bah, voici ce que, pour ma part, j'ai décidé de faire et qui est accessible à pratiquement tout le monde. J'ai cessé de considérer comme normal qu'un professionnel de santé me prenne 5 minutes entre deux portes, me parle comme à un môme ou accueille des visiteurs médicaux d'industrie pharmaceutique. Chercher à comprendre notre système de protection sociale en me documentant, souvent par le biais de documents techniques imbuvables et non politisés. Et surtout, bah, je milite. Je milite pour de réels biens publics de santé avec un accès inconditionnel. Et puis, des personnes en nombre suffisant avec les moyens de bien faire leur travail. Le fait que les hôpitaux ferment leurs lits, fonctionnent à flux tendu de personnel ou acceptent des queues aux urgences n'est pas le fruit du hasard, mais d'une marchandisation du soin contre laquelle il faut se battre, à mon avis, hein, et dont les premières victimes sont les pauvres qui ne peuvent se payer ces soins privés.
Eh ben, C'est quand même pas joyeux tout ça. Et tout le monde dit que notre système de santé est le meilleur.
Bah, et c'est pourtant probable. Je les connais pas tous, mais c'est probablement vrai, hein. Tu vois que les reproches faits au système de santé conventionnel et qui poussent certains à chercher des alternatives sont bien plus d'ordre éthique et politique que d'ordre médical. Remarque bien aussi que l'on ne considère un traitement comme alternatif qu'à partir du moment où le malade a accès au système conventionnel. Et sur ce point, on tombera tous d'accord, il faut mettre en place des mesures pour que personne, quelle que soit sa bourse, ne se retrouve dépourvu de soins s'il en a besoin, et ce, quels que soient ses soins et leur importance.
Mais ces mesures existent? L'État n'a pas mis en place des garde-fous?
Si, et tu sauras ça au chapitre 7.
Oh, punaise!